VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette toute première édition du Monde aujourd'hui de l'année 2016. En direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Albertson qui se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2016. Une édition spéciale ce matin pour démarrer cette nouvelle année, une édition consacrée aux perspectives du continent africain. Mais tout d'abord, le point sur l'actualité en 5 minutes.
Dans l'actualité africaine, pour commencer, au Niger, l'opposant et candidat à la présidentielle, Amadou Boubacar Cissé, a été brièvement interpellé. Il a été entendu jeudi après-midi, après plusieurs heures dans les locaux de la police à Niamey. Amadou Boubacar Cissé a été interpellé juste au moment où il s'apprêtait à sortir pour déposer sa candidature au ministère de l'Intérieur, selon Ousseini Salatou, le porte-parole de l'opposition. La date limite des dépôts de candidature pour le premier tour de la présidentielle du 21 février prochain est fixée au 2 janvier 2016.
À la veille du nouvel an, les chefs d'État africains se sont pliés à la coutume du traditionnel discours à la nation. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé avoir accordé des remises de peine partielles ou totales à 3100 détenus de la crise post-électorale. Monsieur Ouattara a également réitéré sa volonté d'organiser un référendum constitutionnel pour 2016 et il a promis de lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes.
Amnistie également en République démocratique du Congo, où le président Joseph Kabila a gracié les membres du mouvement Bundu Dia Congo, ainsi que les prisonniers ayant plus de 70 ans. Il a également réitéré son appel pour un dialogue politique national.
Dans son message de vœux du nouvel an, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a lui appelé la classe politique à faire preuve de haute maturité, à moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle. Mercredi, les autorités congolaises ont fixé au 20 mars le premier tour de la présidentielle qui était censé se tenir en juillet.
L'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, s'est rendu jeudi à Shahat, dans l'est de la Libye, pour convaincre le président du Parlement reconnu internationalement et des chefs de tribu de soutenir un gouvernement d'union nationale. Selon l'agence officielle LANA, les chefs des tribus de Barka ont posé 3 conditions pour approuver le gouvernement d'union: la protection de l'armée nationale, la garantie de la répartition équitable des portefeuilles et la protection du gouvernement sans le recours aux milices.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, le groupe État islamique est soupçonné d'avoir voulu perpétrer un attentat suicide hier soir à Munich en Allemagne. C'est ce qu'ont indiqué les autorités allemandes. Selon des éléments fournis par des services de renseignement amis, l'attaque était prévue par Daesh aux alentours de minuit à la gare centrale de Munich ou à celle de Passing. À l'ouest de la ville, les 2 gares ont été évacuées à temps et les trains n'y circulent plus.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, venu fêter le nouvel an sur le porte-avions Charles de Gaulle dans le Golfe, a estimé hier que la guerre contre le groupe djihadiste État islamique commençait à porter ses fruits. Selon le renseignement français, Daesh commence aussi à s'étendre en Libye, où il dispose d'un camp d'entraînement et constitue progressivement une menace aux portes de l'Europe. Monsieur Le Drian rendra visite vendredi aux pilotes français stationnés en Jordanie et samedi aux légionnaires basés aux Émirats qui forment des unités de l'armée irakienne au combat antiterroriste.
La Maison-Blanche a décidé de repousser sa décision concernant la mise en place d'éventuelles nouvelles sanctions contre l'Iran liées à son programme de missiles balistiques, a affirmé hier le Wall Street Journal sur son site internet. Le quotidien américain avait révélé mercredi que les États-Unis préparaient de nouvelles sanctions contre des entreprises et des individus qui auraient œuvré notamment en Iran au développement du programme de missiles balistiques de Téhéran. Faisant référence à des responsables américains non identifiés, le journal écrit que Washington reste déterminé à combattre le programme de missiles de Téhéran et que les sanctions concoctées par le Trésor américain restent sur la table.
Gigantesque et spectaculaire incendie à Dubaï, dans un grand hôtel de luxe du centre-ville. L'hôtel Address Downtown est situé près de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, autour de laquelle se rassemblaient des spectateurs pour le feu d'artifice du nouvel an. Aucune victime n'est à déplorer et il y aurait 14 blessés.
En Inde, les rues de New Delhi sont interdites aujourd'hui à plus d'un million de véhicules privés, alors que la capitale la plus polluée du monde essaye de mettre en place une circulation alternée pour mieux respirer. La mesure avait été annoncée début décembre pour répondre à l'inquiétude grandissante face à des niveaux de pollution 10 fois plus élevés que les normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, dossier spécial consacré aux perspectives de l'année 2016 sur le continent africain, présenté par John Lyndon.
Bonjour et merci de nous retrouver dans le cadre de la deuxième partie de cette édition spéciale du Monde Aujourd'hui que nous avons choisi de consacrer aux perspectives de 2016. De la paix au Mali à la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics au Tchad, en passant par la question d'un troisième mandat ou non en République démocratique du Congo, VOAfrique se projette donc avec vous vers 2016 avec nos correspondants. John Lyndon à la présentation, Joselle Maurice assure la production. Merci pour votre fidélité et recevez nos meilleurs vœux pour 2016. La paix, la sécurité, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre le chômage et une justice équitable sont les souhaits des Maliens pour l'année 2016. Car depuis plus de 3 ans, le Mali traverse une crise de sécurité. Malgré la signature d'un accord de paix, rien ne semble régler le problème. Le pays fait toujours l'objet d'attaques terroristes, l'insécurité gagne du terrain, les jeunes n'ont pas de boulot et la mauvaise gouvernance est une réalité dans le pays. Quelles sont les perspectives des Maliens pour 2016? Élément de réponse dans ce reportage de Kassim Traoré.
Une année finie, une nouvelle commence. Mais les Maliens ne constatent aucun changement dans leur quotidien. Les jeunes sont toujours à la recherche de boulot, car selon les chiffres de la Banque mondiale, chaque année, il y a 200 000 chômeurs au Mali. Alousseinou Moussa Diko est un jeune chômeur.
Il y a vraiment de l'insatisfaction. Et nous osons espérer qu'à la nouvelle année, qu'il y ait vraiment du changement. Et que ce changement soit perceptible à tous les niveaux, surtout au niveau de l'employabilité des jeunes. Puisque ça a été vraiment une des promesses du président de la République. Et jusqu'à présent, nous ne verrons pas ça sur le terrain. La concrétisation de cette promesse électorale. Ensuite aussi, la sécurité. Toujours, il y a toujours des poches de tension sur l'ensemble du pays.
La paix et la sécurité semblent être très loin des Maliens. Et qui avaient cru en les signatures de l'accord pour la paix et la réconciliation les 15 mai et le 20 juin 2015. Mais rien à faire. Les signataires de l'accord ne sont pas les maîtres sur le terrain. Ce sont les terroristes qui dictent leurs lois. Aboubakar Abagana Dolo, universitaire.
Mes vœux pour l'année 2016, c'est que les dirigeants mettent tout ce qui est de leur possible pour renforcer la sécurité, pour renforcer les moyens de frappe de l'armée malienne. Ça, dans le domaine de l'éducation, je dirais que beaucoup reste à faire. Dans la mesure où, dans la sous-région, partout où nous voyons la présence de cet établissement, de ce grand établissement qui est l'école normale supérieure, qui forme les professeurs d'enseignement secondaire, on voit que ces gens-là, dès leur sortie, ils sont employés, ils sont recrutés dans la fonction publique. Mais tel n'est pas le cas chez nous ici au Mali. Raison pour laquelle nous demandons aux autorités compétentes de faire tout ce qui est de leur possible aussi pour permettre l'accessibilité des sortants de l'UNCIP à la fonction.
Les Maliens, dans leur grande majorité, expliquent la mauvaise gouvernance du pays par le fait que le président de la République n'a fait confiance qu'aux membres de sa famille. Cela est visible au niveau du Parlement malien et dans le gouvernement. Oumar Diallo, informaticien.
Le président, il n'est pas aidé par ses parents, car c'est ses parents qui sont au devant de tout ce qui se passe dans ce pays, de tout. Ils sont dans tous les secteurs. Ils ne pensent pas au pays, ils ne pensent qu'à leur propre personne. Et moi, je dois mettre les gens à leur place. C'est-à-dire de ne pas regarder seulement, lui, c'est ma famille, je vais l'aider. Non, c'est pas comme ça. Un pays ne doit pas être géré comme ça. 2015 n'a pas été facile, on comprend vraiment le président. On espère et on souhaite que vraiment 2016 soit une année de paix durable au Mali.
Selon bon nombre d'observateurs, les changements tant souhaités par les Maliens ne sauraient être l'affaire des seuls dirigeants du moment. Saïbou Kone, élève professeur à l'UNSUP.
Le changement, ce n'est pas l'affaire des autorités seules. Le changement, c'est tout le peuple qui doit changer. Les familles sont d'abord pourries. Quand ça ne va pas en famille, ça gagne la société. Quand la société elle est mauvaise, le pays est tout à fait menacé comme ça. Donc, que tout le monde change à son niveau. Comme ça, on pourrait avoir un élan pour le développement durable de ces pays. En ce qui concerne les dirigeants, nous leur demandons seulement d'être transparents, qu'ils essaient de mettre fin à la corruption, qu'il y ait l'égalité des chances.
L'équité dans les tribunaux, la bonne gestion des ressources de l'État, mais surtout l'amélioration du panier de la ménagère, n'ont pas échappé aux Maliens en ce début d'année. Yaya Konaré, journaliste.
Que les dirigeants de ces pays-là pensent vraiment aux pauvres, les couches les plus démunies, qu'on fasse de telle sorte qu'on puisse vraiment apporter une certaine amélioration dans la condition de vie de ces catégories sociales-là. Par rapport à la crise du Nord, le président parlait l'autre jour, il dit qu'il y a un accord qui a été signé, que la mise en œuvre de l'accord suit son cours normal et qu'il faut attendre. Donc il faut donner du temps au temps pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. On lui fait confiance par rapport à ça. Lui-même disait qu'il ne va pas à Kidal et que le jour venu va aller.
Certains jeunes Maliens ont perdu tout espoir quand ils évoquent la situation au nord du Mali. Ousmane Diallo en fait partie.
Le pays va très mal et vraiment le président doit améliorer la situation. Toutes les promesses qu'il a fait lors de sa campagne 2013, aucune promesse n'a été tenue. Aucune promesse. Il nous avait promis qu'il va reconquérir le nord. Et jusqu'à présent, les Maliens ne sont pas capables d'aller, de rentrer à Kidal. Il n'y a plus de soldats français, allemands, belges, hollandais que les Maliens. Les soldats français, ils ont une possibilité de faire tout ce qui se passe à Kidal. Quelle est cette situation? Vraiment que le président nous communique ce qui se passe à Kidal.
Le cantonnement des groupes armés, la lutte contre le terrorisme, le retour des réfugiés et leur réinsertion sociale font partie des perspectives de 2016 au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Tchad, les autorités sont déterminées à faire de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics une priorité. Le président Idriss Déby Itno l'a lui-même déclaré. Les acteurs politiques et les organisations de la société civile ne croient pas à cette déclaration et parlent d'une promesse électorale. Les précisions d'André Kodma Tingar Anjamena.
2016 sera, il faut bien le noter, l'année de lutte. Une lutte sans merci contre la corruption et le détournement des deniers publics.
C'est un avertissement du président tchadien à l'endroit de ses concitoyens manqués d'éthique et ayant pour seule intention le pillage des ressources du pays. Au seuil de l'année nouvelle, Idriss Déby Itno promet la guerre ouverte contre ces indélicats.
Ces pratiques immorales, devenus sports favoris de nombre de Tchadiens, seront combattus avec la même vigueur que le combat que nous menons contre les terroristes. Le Tchad renaissant ne saurait faire chemin avec des fonctionnaires indélicats, des commerçants beurrés ou tout simplement des voleurs.
Les syndicalistes estiment que le président Déby fait du folklore. Pour le secrétaire général du syndicat des anciens du Tchad pour la région de N'Djamena, Ngartoïde Blaise, c'est depuis 25 ans que le Tchadien avale ses promesses sans lendemain.
Les vrais voleurs, les chefs de l'État les connaissent. C'est d'ailleurs des grandes personnalités qui sont dans le système qu'on cesse de nous distraire. Et donc, notre souhait pour l'année qui se pointe déjà à l'horizon, qu'il y ait un changement dans le comportement des gens qui nous gouvernent.
D'autres syndicalistes exigent qu'ils ramènent en prison son frère cadet Salah Déby, ex-directeur général des douanes poursuivi en octobre dernier pour détournement des deniers publics et enrichissement illicite. Pour le président du syndicat national des travailleurs des affaires sociales et de la santé du Tchad et vice-président de l'union des syndicats du Tchad, Younous Mahadir, Déby doit s'assumer de sa mauvaise gestion.
La raison profonde, c'est que l'argent est détourné par les parents de Déby. Et le peu qui reste ne suffit pas pour satisfaire les besoins de l'administration tchadienne. Déby dépense comme il veut. Quand il voyage, vous savez combien de milliards il prend? Il y a tellement de l'argent dans ce pays-là et que Déby connaît bien là où cet argent se trouve. Pour moi, je pense que Déby doit tirer les conséquences et dire « Je n'ai pas du tout été capable de gérer ce pays-là et pour cela, je dois partir un point instinct. »
Les associations de défense des droits de l'homme proposent un dialogue social inclusif pour la sortie des crises. Baldal Oyamta Valentin est le coordonnateur national de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Il serait intéressant pour l'État de s'asseoir avec les partenaires sociaux pour revoir le contexte dans lequel nous évoluons. Aujourd'hui, si on va dans les banques, on voit que les banques sont pratiquement au rouge. Et donc, nous souhaitons que cette question-là ne soit pas seulement débattue au niveau du gouvernement, mais c'est une question qui doit être débattue avec tous les partenaires sociaux, avec les organisations de la société civile, pour qu'on puisse voir quels sont les maux qui minent le social et quelles solutions apportée.
C'est dans ce contexte que le président Déby tente de redonner espoir au peuple tchadien. Il informe que tous les chantiers seront relancés en 2016.
En 2016, seront relancés tous les chantiers. Ce sera une autre opportunité de création d'emplois en faveur des jeunes qui aujourd'hui broient noir. L'État fait déjà assez, mais force est de constater que beaucoup de nos jeunes se laissent appâter par des vendeurs d'illusions pour se retourner contre leur propre pays, s'ils ne sont pas encore partis rejoindre la nébuleuse terroriste de Boko Haram.
L'économiste et député à l'Assemblée nationale, Gali Ngouté Gata, s'est dit pessimiste quant aux relances des chantiers annoncés par le chef de l'État.
En tant que président du Tchad, il a tout le droit de donner de l'espoir au peuple tchadien. Mais moi, je pars des indicateurs qui jugent le Tchad. Le premier indicateur, c'est le PIB par habitant du Tchad. Ça classe le Tchad parmi les pays les plus pauvres. Par rapport à ce PIB, le Tchad dépense 18% pour les dépenses militaires, 0,2% pour l'éducation et 0,02% pour la santé. Quand on dit que les chantiers vont être relancés, j'espère que ce sont des dépenses d'infrastructure et des dépenses concernant la santé, l'éducation, les logements, toutes choses par ailleurs qui peuvent améliorer la vie des Tchadiens. Si ce n'est pas le cas, c'est une promesse, à mon avis, électorale. Deuxième référence, c'est l'indice du développement humain qui indique si le pays a fait des progrès dans l'éducation, la santé, le problème de la femme, de l'enfant, le logement. Alors, ça situe le Tchad parmi les pays les plus mauvais. Alors, les investissements, là, le Tchad va l'orienter dans quoi et avec quelles ressources, étant donné que présentement même, les responsables ne cessent de dire que les caisses de l'État sont désespérément vides. L'autre référent, l'indice Mo Ibrahim, qui indique l'atmosphère des affaires. On dit qu'au Tchad, ce n'est pas le lieu indiqué pour faire des affaires. Si les investisseurs étrangers ne peuvent pas venir investir au Tchad, où est-ce que ça va se trouver le développement? Et en quoi est-ce que 2016 annoncé par le président constitue une amélioration par rapport à ces
Comme on l'aurait constaté, cette crise sociale, si elle n'est pas résorbée sous toutes ses formes, risque d'entamer la bonne organisation des élections générales de 2016. Bonne et heureuse année à tous et à chacun. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
En République démocratique du Congo, 2016 sera une année de grands enjeux, nous dit notre correspondant à Kinshasa. Il y a d'abord cette question qui continue de faire débat dans le pays, à savoir si Joseph Kabila, dont le mandat arrive à terme en 2016, briguera un second mandat ou non. Pour l'heure, le concerné garde le silence sur la question. Depuis Kinshasa, le reportage de Dominique Tinanga, de Top Congo FM.
2016 s'annonce une année des grands enjeux en République démocratique du Congo. Une année électorale qui va voir les seconds mandats du président Joseph Kabila arriver à son terme, conformément à la constitution qui limite à deux les mandats présidentiels. Joseph Kabila va-t-il briguer un troisième mandat? C'est la question qui taraude encore les esprits. Durant l'année 2015, le sujet a suscité une vive polémique au sein de la classe politique. Non seulement le silence de l'actuel chef de l'État sur son avenir politique après 2016, qui n'a pas été bien digéré par les opposants, mais aussi les déclarations faites par certains cadres de la majorité présidentielle, dont le ministre en charge de relations avec le Parlement et membre du bureau politique de la MP, Tryphon Kinkemoulumba, qui trouve nécessaire d'accorder un nouveau mandat à Joseph Kabila.
Nous militons pour la reconnaissance d'un homme, Kabila, qui a permis à ce pays, le Congo, d'avoir la paix, d'avoir la stabilité. Nous disons qu'il y a une envie de Kabila. Nous estimons que des hommes d'exception, ça ne vient pas tous les 10 ans. Une révision constitutionnelle serait la chose la plus souhaitable.
Et pour accorder un troisième mandat à Joseph Kabila, il faudrait au préalable procéder à la modification ou au changement de la Constitution. Or, côté opposition, tous ne jurent que par le respect de la Constitution qui consacre l'organisation de la présidentielle en 2016 sans Joseph Kabila.
Martin Fayoulou.
La Constitution a dit en son article 220 que la forme républicaine de l'État, que le nombre de mandats pour le président de la République et d'autres questions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une révision. Nous disons, c'est fini. Il n'y a pas de présidence à vie en RDC.
2016 sera sans nul doute une année de beaucoup de turbulences, avec une opposition rejointe par les dissidents de la majorité présidentielle, dont le G7 et l'ancien gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapwe, dont la popularité est indéniable. Et pendant ces temps, plus d'un Congolais se demande s'il y aura réellement élection présidentielle et législative cette année, quand on sait que le calendrier de la CENI peine encore à être exécuté. Depuis sa publication par la Commission électorale nationale indépendante, aucune élection n'a été organisée et pire encore, les arriérés électoraux de 2011, dont les élections des députés provinciaux qui devraient à leur tour élire les nouveaux sénateurs et les gouverneurs de province. Dans l'entretemps, le gouvernement s'était vu obligé de nommer les commissaires spéciaux chargés de gouverner les nouvelles provinces issues du démembrement en attendant l'élection du gouverneur. Mais pour combien de temps? Difficile de répondre pour l'instant à cette question. Le nouveau président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, se trouve alors devant une impasse pour la publication d'un nouveau calendrier électoral réaliste. Et les blocages s'appellent « dialogue ». Forum qui devrait, selon ses partisans, dégager un consensus autour des questions électorales. Mais son opportunité continue à diviser la classe politique. Depuis l'annonce de sa convocation par le président de la République, Joseph Kabila, le 28 novembre 2015, aucune avancée n'a été enregistrée. Même le comité préparatoire n'est toujours pas mis en place. Dans l'entretemps, le camp présidentiel et l'UDPS d'Étienne Tshisekedi ne s'accordent pas sur les modalités. La première force de l'opposition congolaise ne reconnaît même pas à Joseph Kabila la qualité de convoquer les dialogues et exige la médiation internationale dans l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et le temps avance sans pitié. Des manifestations publiques, il faut sans doute s'y attendre en 2016 avec ou sans incident. Les opposants hostiles au dialogue promettent de recourir à l'article 64 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi, indique le même article 64. Cette disposition de la constitution de la RDC est donc sujette à de multiples interprétations. Tout dépend de l'obédience ou de la couleur politique de la personne. Les uns préfèrent l'alinéa premier de cette disposition et d'autres préfèrent l'alinéa deuxième. On risque donc de tirer une conclusion abusive en disant que cette disposition contient deux alinéas contradictoires. Le pouvoir laissera-t-il les opposants manifester librement? C'est la question que se posent les observateurs avertis au regard d'une mise en garde faite dernièrement par le procureur général de la République. Avec la naissance du Front citoyen à la veille de 2016, une plateforme composée des acteurs de l'opposition et de la société civile, dont la plupart ont pris part à l'atelier de l'île des Gorées au Sénégal, les actions envisagées pour défendre le respect de la Constitution risquent de tourner au vinaigre. Quand on sait que ces assises ont été qualifiées par le pouvoir d'une messe noire destinée à déstabiliser les institutions de la République, sera-t-il possible d'organiser les élections législatives et présidentielles en 2016? Joseph Kabila sera-t-il candidat à sa propre succession? Le dialogue aura-t-il réellement lieu? Avec quels participants? Plusieurs questions qui feront bouger certainement la scène politique en 2016. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À présent, je vous invite à faire un tour du côté du Burkina Faso. Les Burkinabés font un ramassé de l'année 2015 et formulent leurs vœux et souhaits pour 2016. C'est au micro de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Onogo.
Madame Sanou Victoire, je rends vraiment grâce à Dieu pour la paix qu'il a donnée à mon pays et pour le bonheur aussi qu'il m'a donné d'avoir aussi une fille. Et pour cette année 2016-là, je souhaite à ce que Dieu, vraiment, le bonheur que Dieu m'a donné d'avoir vraiment une fille, que Dieu donne vraiment ce même bonheur à ces femmes-là aussi qui cherchent aussi d'enfants. Cette année 2016-là soit une année vraiment de paix, de prospérité, de grâce dans tous les foyers. Et que Dieu bénisse tous les enfants du Burkina Faso. Aux auditeurs de la Voix de l'Amérique, vraiment, je les souhaite vraiment du courage. Que Dieu vraiment ne manque pas de les visiter.
Je me nomme Jean-Claude Diomam. Je suis le ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso. Je suis un ministre de la Transition. La Transition, ça a été un moment très éprouvant, mais un moment aussi exaltant pour notre peuple. C'est pour cela que je voulais d'abord remercier le peuple burkinabé, remercier surtout la jeunesse pour ce qui est arrivé. Et je crois que 2015 a été vraiment un tournant mémorable et formidable. La Voix de l'Amérique, je vous écoute tous les matins. Ah, je n'ose pas vous dire certaines choses. Même dans ma douche, je mets la Voix de l'Amérique. Et je sens que c'est véritablement une radio qui est très proche de nous. Je voudrais véritablement vous dire bravo pour le travail que vous faites. Je souhaiterais véritablement que cette année 2016 sera une année où les choses, les cœurs vont s'apaiser. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette paix. Et je souhaiterais que véritablement 2016 soit le début de l'apaisement. Bonne année à tous.
Moi, c'est Madame Catherine Cambine. Je suis enseignante. L'année 2015, je dirais, a été beaucoup mouvementée. Mais elle s'est bien terminée finalement. On rend grâce à Dieu pour cela. Et nous espérons vraiment que l'année 2016 sera meilleure. Et je souhaite pour l'année 2016 la santé. La santé à moi-même, à ma famille, à tout le monde d'ailleurs. Mes souhaits, je souhaiterais quand même concevoir. C'est ma prière. Et je souhaite aussi avoir une voiture. Et pas n'importe laquelle, une 4x4. Aux journalistes de la Voix de l'Amérique, je leur souhaite d'abord la santé, beaucoup d'inspiration, toujours de l'innovation pour satisfaire les auditeurs. Aux auditeurs, je souhaite aussi la santé, qu'ils participent encore plus aux émissions afin que nous puissions apprendre les uns des autres.
Traoré Aluna, Burkinabé, l'année 2015 a été de beaucoup d'épreuves. Nos espoirs ont été un peu perturbés par certains événements, mais Dieu merci, la transition a été sauvée. Donc, quoi qu'on dise, 2015, l'année et puis beaucoup d'espoir. Les fleurs en tout cas promettent de lendemain meilleur. 2016, ce n'est que l'apothéose. On souhaite que le Seigneur arme tout un chacun de courage et d'abnégation et de beaucoup d'énergie. Ainsi, bonne et heureuse année à tout le monde. Où que vous soyez sur la planète Terre, croyez, espérez, ainsi va la vie.
Moi, c'est le député Alexandre Sankara. L'année 2015, on a enregistré beaucoup de succès, mais aussi beaucoup d'échecs. Les succès, c'est tant qu'on politique, l'opposition que nous avons faite par rapport au coup d'État du 16 septembre. Les succès, c'est aussi notre élection en tant que député de la future Assemblée nationale. Souhaitons pour 2016 une année de paix, de stabilité pour notre cher pays que nous aimons tant. Une année aussi de travail. Il faut que les Burkinabés se remettent vite au travail pour élever les grands défis qui se présenteront à nous. Aux éditeurs de la Voix de l'Amérique, je les souhaite plein succès pour 2016, succès dans leurs entreprises. Je les souhaite aussi beaucoup de santé et beaucoup d'espérance. Pour
Dieudonné Soubega, je suis le coordonnateur du réseau d'information et de communication pour l'hygiène, l'eau potable et l'assainissement au Burkina Faso. Je formule le vœu que l'année 2016 soit une année de renaissance pour le Burkina Faso, afin que chaque Burkinabé puisse se réaliser, afin que chaque Burkinabé puisse avoir l'espoir que l'insurrection a été un élément déclencheur pour le renouveau du Burkina Faso. Je formule le vœu également que le nouveau gouvernement puisse trouver des réponses pressantes et précises aux attentes des jeunes, mais également faire en sorte que le bien-être réclamé par les Burkinabés soit quelque chose de concret au quotidien. À tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique, nous leur souhaitons bonne et heureuse année 2016. Que l'année 2016 puisse leur permettre d'être toujours branchés sur la Voix de l'Amérique pour avoir l'information réelle en temps réel.
Sidiki Dramé, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, membre de la coalition national contre la vie chère, contre l'impunité et pour les libertés. Sur le plan de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, en tout cas, on peut dire que la rencontre annuelle gouvernement syndicat a quand même apporté des résultats assez satisfaisants sur le plan des libertés, des avancées. Comme le disait le professeur Kizerbo, si nous nous couchons, nous allons mourir. Nan Lara, en Sahara, et nous n'allons pas nous coucher. Nous sommes des lutteurs et nous voulons que tout le peuple burkinabé et l'ensemble des Africains suivent cet exemple de combativité. En tout cas, la démocratie est universelle et chaque peuple en a droit. La Voix de l'Amérique, nous saluons tous les journalistes, tous les travailleurs de ce média et les responsables, sans oublier les nombreux auditeurs burkinabés africains qui suivent cette radio et nous leur souhaitons en tout cas bonne et heureuse année, plein de succès.
Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie de cette édition spéciale du Monde Aujourd'hui consacrée aux perspectives de 2016. John Lyndon était à la présentation, Joselle Morrison assurait la production. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Recevez nos vœux les meilleurs pour 2016 et restez au cœur de l'actualité en écoutant nos programmes en direct et sur voafrique.com.